Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les services de renseignement prévoyaient 270 000 manifestants. Ils étaient finalement le 5 décembre au moins 806 000 selon les autorités et 1 500 000 selon la CGT entre la gare de l'Est et la place de la Nation à Paris, mais aussi à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, Clermont-Ferrand, à Lille, à Rouen, à Grenoble, à Tours, à Rennes, à Brest, à Saint-Étienne, à Bayonne et à Pau, à Strasbourg, à Perpignan, à Limoges, à Saint-Nazaire ou encore à Caen. Une journée de protestation contre la réforme des retraites qui a parfois débordé ce cadre pour protester contre la politique du gouvernement en général à l'égard des services publics. Il y a ce jour-là dans la rue des enseignants en grève, mais aussi des animateurs, des cantiniers, des maîtres nageurs, des policiers, des médecins, des personnels des hôpitaux bien sûr, des cheminots, des conducteurs de bus et de métro, des intermittents du spectacle et des permittents. C'est aussi des 8 raffineries françaises sont en grève et manifestent, tout comme des agents d'EDF, d'Orange, de La Poste, des éboueurs, des avocats, des retraités, des transporteurs routiers et même à la Banque de France. Certains salariés sont en grève, tout comme à Radio France, les premiers sur les retraites et les seconds sur les réductions budgétaires. Parmi les slogans notables et révélateurs d'un certain esprit bien français, on pouvait lire « La retraite, vous la voulez à point ou saignante » ou encore « Mets des paillettes dans ma retraite, Jean-Mi, l'heure est grève » ou plus sophistiqué « Block Thursday plutôt que Black Friday, regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte ». On a vu aussi une petite fille avec un panneau qui disait « J'ai 8 ans et je ne veux pas être à la retraite à 88 ans ». Et une autre, j'ai 11 ans, pourrais-je un jour tricoter comme ma grand-mère ? Enfin, en mode Charlie Hebdo, sois vioc et tais-toi, retraite à point, retraité à poil. Les 10 et 12 décembre, deux nouvelles journées de manifestation ont mobilisé dans les mêmes lieux où presque des centaines de milliers de personnes contre la réforme des retraites, avec encore une fois une timide convergence des luttes contre les réductions budgétaires dans les services publics. Tout de suite donc une bonne vieille tradition des pieds sur terre, vous l'aurez compris, le récit de manif, ce qui indigne, ce qui révolte, ce qui agite nos concitoyens. Au micro de Valérie Borst, Émilie Chaudet et Rémi Dibowski-Douatte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
On est dans un passage assez moche, quoi. J'ai l'impression que c'est les Black Blocs qui sont là. Il y a des fumées, des trottinettes qui brûlent, il y a beaucoup de gens casqués, masqués. Ça craint pas mal. Il y a une grande violence quand même, hein. Une atmosphère violente, je trouve. On sent une exaspération énorme. On sent pas une très grande solidarité entre tous les gens. Enfin bon... Elle n'est pas sympathique. On est un peu inquiet, donc on ne sait pas s'il faut partir, s'il faut rester, s'il va se passer quelque chose. Parce qu'à République, le nombre de cars de police de CRS, c'est incommensurable. Il y en a des dizaines et des dizaines. Toutes les rues sont fermées. J'ai peur que ça fasse comme la place d'Italie, quand ils ont tout bouché et que les gens ne pouvaient pas partir. Et là, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que autour de la place de la République, tout est bouché.
Ah, juste à côté, là.
Je sais pas. Voilà. Bon.
Ils sont là, ils sont planqués, là. Les keufs. Et ils balancent des LBD, là. Juste, voilà, paf, de là.
Ils empêchent la manif de démarrer. Comment on va faire pour remonter la rue si nous, on peut pas passer et qu'ils ont déjà...
Passer, là.
Ok, il y a peut-être des gens qui veulent aller à l'affrontement, mais il y a des milliers de gens derrière là qui ont envie de défiler pour dire qu'ils en ont ras-le-bol de cette politique qui nous bouffe, qui nous... Alors, on est des travailleurs pauvres, on va être des retraités pauvres, je vais mourir peut-être sur les trottoirs, je vais avoir peut-être 850 euros par mois. Qui peut vivre avec 850 euros par mois? Il faudrait déjà relever les salaires, hein. On avait des salaires décents, on aurait des retraites décentes. Et la retraite à par points, c'est de la merde. Nous, on est des fonctionnaires, ça fait longtemps que le prix du point, il est gelé, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une augmentation de salaire. Alors, vous pensez bien que quand le gouvernement, il aura la main mise sur la valeur du point, il va nous enfoncer dans la misère. Là, ils veulent tout nous piquer. Mais qu'ils piquent aux banquiers, hein. Pour Notre-Dame, on a trouvé de l'argent. Et on vous nous ferait faire croire que nous, on ne peut pas faire changer les choses. Ben, bien sûr qu'on ne peut pas faire changer les choses. Vous entendez? Voilà, ils tirent. Ils tirent. Alors forcément, les kidams comme nous, et ben on a peur, et puis on ne peut même pas avancer. C'est pas normal, ça.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis aide-soignante en psychiatrie dans l'Oise. Et la psychiatrie, c'est l'enfant pauvre de la médecine. On parle de grève, mais nous, on est toujours réquisitionnés. Nous, on doit toujours s'occuper des gens les plus défavorisés. Hein, parce qu'en psychiatrie, qu'est-ce qu'on a? On a les gens les plus démunis, même socialement. Et on n'a pas d'argent et on fait avec des bouts de ficelle. C'est pas normal. Cette société, elle est riche. Elle a les moyens d'aider tous les gens. C'est ce système qu'il faut foutre en l'air. Et voilà où on en est aujourd'hui. On dit qu'on ne veut pas de ça et eux, ils ne nous entendent pas. Ils ne veulent pas nous entendre et ils sont bien contents que ça tourne au vinaigre. Et là, c'est bien les flics qui sont en train de tirer. C'est pas les jeunes. Regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, monsieur, j'ai eu 21 accidents du travail dans mon travail. Alors, pas des graves, mais cumulés sur un corps. On est invalide de nos bras, de nos jambes, mentalement, parce que moi, je travaille avec des gens qui ont besoin qu'on les aide. Et moi, j'exerce mon métier à l'heure actuelle dans des conditions lamentables. Il n'y a plus d'argent, on met la télévision, ils tourneront, les mecs. Puis quand ils sortent, eh ben, ils ne sont pas bien. Ben, c'est normal. Eh ben, maintenant, on va laisser les gens crever dans la rue, etc. Eh ben, moi, je suis contre cette société-là. Prenons aux riches, redistribuons et arrêtons de nous faire croire que c'est nous, les petites gens, qui devons toujours payer. On en a marre.
Je suis infirmière à la Riboisière de nuit. Ça va faire 36 ans et j'ai 58 ans. L'avoir essayé une simulation pour voir ma retraite avec la nouvelle formule Macron et franchement, travailler autant d'années de nuit alors que la pénibilité du travail de nuit n'est pas reconnue pour la fonction publique hospitalière, pour obtenir si peu, non. À partir du moment où notre pension retraite sera calculée sur l'ensemble de la carrière, vu les traitements que nous avons dans la fonction publique hospitalière et non pas comme actuellement la pension qui est calculée sur les 6 derniers mois d'activité, de toute façon ça sera moins, de toute façon. Ils nous disent qu'on va avoir une espérance de vie plus longue, ils n'en savent rien, à chaque fois ils font une moyenne avec ceux qui ont les métiers les plus aisés et donc qui sont les moins fatigants, ils ne regardent pas nous, ils ne regardent pas, je vous dis, on n'a pas la pénibilité déjà du travail de nuit. On arrive à la fin de la carrière avec des neurones en moins, des problèmes de santé. J'ai plein de collègues de nuit qui développent des cancers du sein encore plus qu'avant, qui font des maladies cardiovasculaires. J'en ai une, elle a fait rupture d'anévrisme 2 fois sur son lieu de travail. J'en ai une, elle a fait un AVC sur son lieu de travail. C'est inadmissible qu'on n'en tienne pas compte, c'est inadmissible. Ils ont du mal à recruter, ils ne recrutent pas de jeunes. Et les collègues font des heures sup, c'est-à-dire que c'est déjà fatigant de faire le travail de nuit, mais en plus de ça, elles font des heures supplémentaires. Moi, j'ai des collègues, elles font 5 heures sup par nuit. C'est-à-dire qu'elles travaillent 50 heures de plus durant la nuit, par mois. Voilà. Et ça, on ne peut pas le savoir, parce que les heures sup, ça n'apparaît pas sur nos plannings, c'est sur un planning à part, dans le bureau de la direction. On demandait à ce que ça soit visible, à ce que ça apparaisse sur les plannings. Les directions n'ont jamais vu. Autre point aussi, quand on n'a pas de relève, on doit doubler. C'est-à-dire que vous venez de faire votre temps de travail, collègue de jour, elle vient de faire ses 7h30, elle n'a pas de relève l'après-midi, elle enchaîne. Elle travaille 15 heures. Jusqu'à ce qu'arrive sa collègue, sa relève de nuit. On lui dit, bah voilà, vous n'avez pas de relève, moi je trouve personne pour vous remplacer. Il faut que vous restiez, hein, parce que vous ne pouvez pas laisser les patients comme ça. Hein. Et puis vous n'avez pas le choix, alors qu'on a le choix. Bon, ben je reste, hein, madame, j'ai travaillé 15 heures. Mais c'est sous votre responsabilité. Hein. Si jamais, parce que vous êtes trop fatigué, vous faites une erreur, ben ça sera vous qui morflerez. Pas la direction, pas l'encadrement, ça sera vous. Parce que vous aurez accepté de doubler. Vous prenez vos responsabilités. Je compte prendre ma retraite en août 2021 parce que j'estime qu'à 60 ans, c'est bon. Donc je pense que pour Noël de l'année prochaine, je serai déjà plus dans mon service. Remplacer, peut-être pas, ils ont du mal à recruter. Si cette réforme des retraites n'est pas modifiée, ça va être extrêmement dur pour tout le monde. Et les collègues seront moins présentes et moins nombreuses pour pouvoir avoir une écoute attentive et une présence attentive et une surveillance des patients. Les machines ne font pas tout. Il faut quand même que l'on passe pour les surveiller, il faut qu'on soit des oreilles pour écouter ce qu'ils ont à dire, avoir du temps pour les installer, avoir tout ça, c'est ce qu'on appelle du nursing qui n'est absolument pas comptabilisé en temps horaire par nos têtes pensantes et qu'elles ne se rendent pas compte. Alors en 1995, j'étais en réanimation. C'était notre première grande grève où enfin on pouvait s'exprimer, on pouvait dire comment on travaillait. Et puis c'est là où on a eu la pénibilité du travail de nuit, où on était passé aux 32h30 les années après. Et puis là, ben, tout ce qu'on a gagné, ben, on les rogne petit à petit. Et puis on a commencé à nous dire, vous n'êtes pas content, vous sortez, vous partez, vous allez voir ailleurs. Hein. Combien de fois on l'a entendu dans tous les services, et quelle que soit équipe de nuit, équipe de jour. Vous n'êtes pas content, mais allez voir ailleurs.
Sans compter que...
Et maintenant, ils ne nous le disent pas, parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Nos salaires, maintenant, tout le monde les connaît. Donc voilà, donc c'était bien, 95. En 95, on était une majorité de jeunes, de moins de 30 ans à descendre. Même l'encadrement sortait avec nous. Maintenant, non, l'encadrement, il n'y en a pas. Et regardez la moyenne d'âge. 45 ans. Les jeunes, elles ont des charges de travail, elles ont toutes les études, le monde. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. L'inquiétude auprès de mes collègues, c'est pas ma retraite, je vais me battre pour la défendre et pour défendre mes conditions de travail. C'est comment je vais pouvoir venir, est-ce que je vais pouvoir repartir, mes enfants qui les gardent, parce que je suis toute seule à m'en occuper. J'habite en lointaine banlieue. J'ai pas de transport parce que c'est normal que la SNCF fasse grève et comme ils peuvent. Moi, je viens manifester parce que c'est mon jour de repos. Je travaille ce week-end. Je reviens donc travailler pour prendre mon poste demain soir. J'ai déjà réservé ma nuit à l'hôtel Lariboisière. Donc, je risque de ne pas retourner chez moi pendant 3 jours parce que j'ai pas de moyen de transport pour venir. C'est voilà, et on est tous comme ça en train de calculer, en train de voilà. Tous là, on pourrait faire la manif avec une banderole. Je représente 10 de mes collègues.
Je m'appelle Frédéric, j'ai 45 ans. J'ai grandi à Villepinte, le 93 c'est quand même une zone assez sinistrée. Il n'y a pas d'emploi. J'ai habité différents endroits. Après je suis partie moi, je fais beaucoup de saisons. J'étais saisonnière beaucoup. J'ai un bac compta, j'ai un bac commerce. J'ai commencé dans le commerce. Après pour partir en saison, j'ai voulu faire un tour de la France. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 16 ans. Je travaillais dans l'agriculture parce que j'avais un oncle qui est paysan. Toutes les vacances, j'étais là-bas, on faisait les foins, il est arboriculteur, il a des cerisiers, je faisais des cerises. Après, mon grand-père tenait une boîte d'intérim dans Paris, donc j'ai toujours travaillé, en fait, même pendant les vacances scolaires à l'époque. dans différents. J'étais à l'Alstom, j'ai fait plein de boîtes. Je fais des grandes maisons aussi, comme Yves Saint-Laurent, Bûcheron. J'étais femme de ménage jusqu'à secrétaire de direction, technicienne d'ordonnancement. Je fais de l'accueil, je fais de la compta, je fais du commerce, je fais de la vente. Je peux même pas tout mettre sur mon CV, tu vois. J'ai fait 3 enfants, je me suis arrêtée de travailler pour élever mes 3 filles, j'ai eu la chance de le faire. Je me suis arrêtée de 15 ans de travailler, j'ai jamais eu des salaires non plus mirobolants. Demain, ma retraite, s'il faut reculer, s'il faut avoir 44 ans d'annuité, je suis au boulot jusqu'à 75 ans, quoi. On s'est arrêté de travailler pour créer une famille, pour pouvoir élever nos enfants, être proche d'eux, parce que moi, sinon, je partais à 7h du matin, je rentrais à 7h le soir. J'ai galéré pour avoir ma première fille, où je voulais l'élever, qu'elle soit bien élevée, et voilà, quoi. On s'est sacrifié pour eux, c'est un choix de vie aussi, mais aujourd'hui, on pleure, quoi. Quand je l'ai fait, je pensais pas en arriver là, je pensais pas que ça allait virer comme ça. Je vais me prendre une retraite complémentaire, je vais être obligée. Il y a combien de retraités aujourd'hui qui sont à 350 euros par mois quand on voit les paysans? Moi, j'ai de la famille paysanne. C'est une catastrophe. Heureusement qu'ils ont encore leur potager. Sinon, ils ne se nourrissent plus, les gens. Ah ouais, moi, je fais mon potager. Je fais des bocaux pour l'hiver.
Moi j'ai 39 ans, je suis musicien metteur en onde en devenir, c'est-à-dire que je ne suis pas titulaire, je suis remplaçant. Malheureusement, je remplace un poste qui va disparaître, donc je ne serai jamais titulaire en fait. Voilà, tout simplement, j'attendais un poste qui n'arrivera plus. Donc pour l'instant, je n'ai pas tellement d'avenir professionnel dans Radio France, ce qui est un peu un problème. Alors musicien metteur en onde, en fait, on fait le lien entre l'équipe technique de prise de son et les musiciens qu'on enregistre. C'est-à-dire que nous, on arrive avec la partition, les connaissances musicales pour expliquer au preneur de son ce qui va se passer dans la pièce, les nuances, les instruments. Et on a le même rapport avec le musicien, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'on met tel microphone à tel endroit, comment va se dérouler la séance d'enregistrement, l'enregistrement du concert. Donc on est vraiment la liaison entre la musique et la partie technique. Il y a des écoles en France où il y a chaque année 7, 8, 10 jeunes qui sortent avec l'ambition de faire ce métier, donc soit dans le privé, soit dans le public, mais pour le faire, il reste quasiment que Radio France dans le public. Et on est en train de leur dire, c'est pas la peine, jusqu'en 2022, 2023, 2024, n'espérez même pas faire ce métier, débrouillez-vous dans le privé, en freelance. Radio France ferme les vannes, en fait. Donc en 2022, les musiciens metteurs en onde ne seront plus que 7 pour couvrir l'enregistrement pour France Musique de tous les concerts des formations de la maison, les concerts dans les opéras de Paris, dans les différents opéras nationaux en France, la musique contemporaine. Donc voilà, moins d'emplois, moins de travail. Et toute une partie de Radio France qui va un peu disparaître, en tout cas ça me nuisait. Moi j'aime trop cette entreprise en fait. J'aime ce qu'on y fait et surtout j'aime le faire pour tous les auditeurs. On va à tous leur apporter la même culture, le même savoir, les mêmes divertissements. Et on y tient plus que tout, je pense que c'est ça qui nous relie tous. Alors, il y a eu beaucoup de concerts qui n'ont pas été captés. Il y a eu des directs pour France Musique qui n'ont pas eu lieu. Et c'est notre façon de faire comprendre et aux musiciens qu'on enregistre, et au public qui vient voir les concerts, et à la direction de France Musique, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de travailler et qu'est-ce qui risque de disparaître. La mobilisation, elle ne fait que commencer. En janvier, on y retournera. En février, on y retournera s'il faut. Je sais que le plan de départ volontaire, il doit s'appliquer à partir de fin mars. Ben, nous, on fera tout jusque-là pour pas qu'il s'applique. Le plan de départ volontaire, c'est 299 postes qui vont être supprimés parce que Radio France décide que pour faire face aux économies, il va falloir se réorganiser. Et sur ces 299 postes, c'est 236 départs volontaires. Et on sait notamment qu'il y a plein de gens dans les secteurs qui sont visés qui ne veulent pas partir. On en parlait tout à l'heure, les autres musiciens metteurs en onde, il n'y en a pas un qui se dit qu'il aime plus ce métier ou qu'il aime plus cette entreprise et qui veut arrêter de le faire.
On a décidé de faire le tour pour rentrer à pied chez nous parce que c'est bloqué, la situation est bloquée actuellement. On a été dans l'impossibilité de suivre le cortège et de manifester jusqu'à Nation. Et là, on voit bien tous les CRS sortent de leur camion pour venir le long du canal. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. Moi, je suis retraitée, longue carrière, puisque j'ai commencé à travailler à 16 ans, mais je travaille toujours pour compléter ma retraite et je paye mes impôts et je cotise pour le reste, pareil, que si j'étais salariée. Les heures pour lesquelles j'ai travaillé supplémentaires n'ont pas été payées, comme j'ai été payée le minimum syndical pour faire 72 heures au lieu de 39. Les 25 meilleures années n'ont pas été prises en compte puisque mes heures n'ont pas été prépayées. Donc je n'ai pas la retraite que je devrais avoir. J'ai 1400. Ce qui, pour d'autres personnes de ma génération, j'ai 63 ans, est pas mal. Mais pour vivre à Paris avec un loyer de 1000 euros, c'est impossible. Il me reste 400 euros. Donc soit je sais pas, soit je pars vivre en province, m'enterrer dans un trou alors je suis parisienne, c'est impossible. Soit je vois pas de solution pour l'instant. Hein.
Là où je commence à avoir la trouille parce que j'ai peur de perdre un œil, j'ai peur de me faire matraquer, j'ai peur. Ouais, j'ai peur maintenant. Ouais. Alors, on est Gilets jaunes de Saint-Brieuc depuis le 17 novembre.
On s'est organisé
à Saint-Brieuc de manière de minimiser les frais parce que venir à Paris, ça a un coût. Rien que pour la route, ça me coûte 30 balles, aller-retour. Parce qu'on est 4 personnes, donc voilà. Après, on remplit une voiture, c'est obligé, sinon on part pas. Donc en voiture, on est arrivé hier soir, on a fait un petit extra qu'on fait pas d'habitude. Là, on a pris un hôtel dans Paris. Parce qu'en général, c'est au camping ou on dort dans les voitures. Mais là, bon, il fait un peu froid et on a voulu faire un extra parce qu'on sait qu'on va. On sait qu'on est arrivé, mais on sait pas quand on part. On peut rester jusqu'à lundi s'il faut, mardi, mercredi, j'en sais rien. Tant qu'il y aura du mouvement, on sera là. Moi, au départ, j'étais maçon et moi, je gagnais très bien ma vie. Moi, j'étais pas malheureux, j'étais patron, enfin bon, voilà quoi. Ma vie a basculé en 2017. J'ai eu un accident de moto et ça fait 2 ans que je travaille pas à cause de ma main, quoi. En fait, à la main, j'ai 3 fractures, ligament et tendon HS. En fait, il faudrait opérer, mais comme je fume de trop, on ne peut pas opérer. Donc aujourd'hui, je rentre dans aucune case. Je ne peux pas rentrer à MDPH, je ne peux pas être en maladie. En fait, je suis obligé d'être au chômage. Voilà, c'est la seule case où on peut me mettre. Et j'ai travaillé 3 mois, par exemple, et on m'a tout supprimé. Quoi. Parce que j'ai travaillé 3 mois. Et puis aujourd'hui, on voudrait remonter une société, mais prêter de l'argent, 80 000 euros à un chômeur, c'est très compliqué. Quoi. Pourtant, tout le monde est très intéressé par mon projet. Tout le monde, ah, ça plaît tout le monde. Mais... Donc en fait, je suis tout seul à élever ma fille. Quoi.
Vous touchez combien ?
950, avec un enfant en charge. J'ai des prestations sociales, bien sûr. Hein, j'ai 250 euros d'allocation logement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Il faut que je me démerde avec ça, il faut que je vive. Moi, je roule en moto. Donc, un mois avant le 17 novembre, je mettais 26 euros dans ma moto. Quand Macron a voulu nous donner un petit peu, on était descendu à 20 euros. J'ai quand même gagné 6 euros sur un plein de moto. C'est énorme parce que ça fait 15 litres, quoi. Un mois après, on était remonté à 26, 27 euros. Donc, ça a été que du foutage de gueule. Sur l'essence, sur le pouvoir d'achat. Moi, avant, avec 100 francs, on pouvait aller au ciné, on pouvait aller bouffer. Aujourd'hui, avec 15 euros, on fait quoi ? On fait un ciné et puis après il n'y a plus rien. Un petit paquet de pop-corn éventuellement. Mais voilà, moi je veux pouvoir emmener ma fille, je veux au ciné, je veux pouvoir faire quelque chose. On ne peut plus rien faire, on n'a plus de loisirs. En fait aujourd'hui on travaille pour payer les factures, l'EDF, la flotte, le loyer, les impôts, etc. etc. quoi. Donc là c'est plus possible. Il faut arrêter tout ça, il faut qu'on puisse vivre. Quoi. 17 novembre c'était formidable. Parce qu'il y a une solidarité, parce que les gens ont réagi, les gens ont réfléchi. Avaient compris qu'il y a un problème. J'ai même discuté avec des macronistes et j'ai réussi à leur faire admettre que le monde allait mal, que quand on nous dit, nous, gilets jaunes, enfin, certaines personnes bousillent un radar c'est 32 000 euros, certes, ok, c'est 32 000 euros, mais moi c'est 32 000 euros, je veux qu'on les mette dans les hôpitaux pour soigner les gens. Mais le problème c'est qu'un malade n'aura pas de part d'argent. Un radar rapporte de l'argent. Aujourd'hui, on est dans cette politique-là. On oublie l'humain. On oublie l'homme. Aujourd'hui, ce qui fait tourner la planète, c'est l'homme, quand même. Faut pas qu'il nous oublie, quoi. Alors moi, j'étais extrême droite. J'ai toujours voté Marine, votre contestataire, que j'ai rencontré d'ailleurs.
Et vous étiez FN, ça veut dire que vous ne l'êtes plus ?
Non. Non, parce que la politique aujourd'hui, c'est tout dans le même sac. C'est un discours politisé. La politique ne me convient plus du tout. Moi, je m'étais jamais vraiment intéressé à la politique. Je m'y suis intéressé depuis le 17 novembre. Je me suis vraiment investi à 300% dans les Gilets jaunes. Ah, moi, j'étais tout le temps là, moi, j'étais tout le temps présent, j'ai fait des manifs. Mais j'ai mes convictions. Je ne suis pas le mouton de Macron, mais je ne suis pas le mouton des Gilets jaunes. On essaye de débattre justement quand on se rencontre avec les GJ de Saint-Brieuc. Donc moi, par exemple, depuis le début, je dis que l'issue est politique, qu'il va peut-être falloir créer quelque chose, un parti citoyen. Et je pense que si on met des représentants par département, par région, mais officiels, là, on pourra commencer à faire quelque chose d'intéressant. On avait commencé sur Saint-Brieuc à faire des assemblées citoyennes, mais toute la Bretagne. Et donc, en fait, on avait un représentant de chaque QG qui venait. C'était très bien, mais ouais, encore les histoires d'égo. Je pense que s'il y a quelque chose qui doit se faire, c'est ici. Paris, c'est le symbole. Je suis passé tout à l'heure, place de la République. Il y avait que des fourgons blancs avec des gyrophares dessus. Puis, le dispositif policier, c'est énorme. Il y aurait la moitié de l'effectif policier sur Paris, au niveau France. J'ai toujours été dans l'optique de ne jamais être violent. Les gendarmes et les CRS, les pauvres gars, mais quand je vois toute la violence qu'ils font, ils s'en vergognent. Donc aujourd'hui, si moi j'en vois un prendre une femme par les cheveux, et puis que et ben, je crois que je saute dessus. Et puis quitte à me prendre des coups. Aujourd'hui, je suis prêt à prendre des coups. Mais j'espère que les choses changent. Qu'ils arrivent à comprendre que ben, les gens existent, quoi. On n'est pas de la viande, quoi. Moi, franchement, j'attends énormément de ce week-end. Que Macron dégage. Donc on va y aller, quoi. Eh ben, go, hein.
C'était La Retraite, vous la voulez, à point ou saignante, des Échos, des manifs. Reportage Valérie Borst, Émilie Chaudet et Rémi Dibowski doit une émission réalisée par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production, c'est Aurélie Marseille avec Abdel Rahim Chekroun. Merci à Lydia, à Monique, à Anita, à Amaury, à Marie, à Tristan, au Gilet jaune de Saint-Brieuc, à Basile Bonne, à Frédéric et à Benoît.